Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour toute cette semaine intitulée Calais, printemps 2016. Ce soir, émission numéro 4.
Il y a vraiment migration lorsque c'est des peuples entiers qui, d'une condition nomade, passent à la condition sédentaire, mais chez les autres ou dans un endroit nouveau. Alors, quelquefois, nous sommes immigrés, d'autres fois, nous sommes émigrés. L'Académie universelle des cultures a choisi délibérément le mot « migrant » pour couvrir les deux aspects, soit le point de vue de celui qui se dit quelquefois envahi par les immigrés, ou l'émigré qui se perçoit souvent comme mal reçu.
Tout au long de cette semaine, nous tentons de comprendre ce qui se passe dans cette zone géographique de notre France, cette zone nommée par certains la jungle. Vous avez peut-être entendu lundi le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, expliquer son parcours, son expérience, ses tentatives d'insérer, d'accueillir des réfugiés. Mardi, c'était le témoignage de Wassim. Hier, celui de Hamid. Nous terminerons cette série demain avec le témoignage de Zimako, mais ce soir nous essaierons de comprendre avec différents interlocuteurs ce qui se joue à la fois politiquement, socialement, intellectuellement, urbanistiquement, pour le devenir peut-être de notre urbanité. Et nous avons invité plusieurs personnes, la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio. Nous avons invité aussi un jeune Calaisien de 18 ans qui a décidé de vivre dans la jungle, toujours entre guillemets, j'emploie ce mot. Nous écouterons le témoignage aussi de Maya Conforti, de l'Auberge des migrants, bénévole. Et nous allons commencer cette émission avec Sébastien Thierry. D'abord, un grand merci, Sébastien, parce que grâce à vous, nous n'aurions pas pu être accueillis aussi bien dans la jungle de Calais. Vous nous avez permis d'être reçus, accueillis et de pouvoir y faire notre travail. Il se trouve que vous êtes politologue, coordinateur de Pérou. Pérou, c'est une association qui veut dire pôle d'exploitation des ressources urbaines et que vous pensez que la jungle, qu'il ne faut pas appeler la jungle parce que c'est un mot discriminatoire et assez négatif, connoté négativement dans la langue française, eh bien en tout cas dans cet endroit se joue peut-être le devenir de notre avenir.
La question qui est la nôtre, c'est de partir évidemment de ce qui s'invente et ce qui s'affirme malgré tout, je dirais, dans ce hors-champ, tiens, puisque de toute façon, et le constat est cinglant, est indiscutable, la manière dont nous traitons le problème aujourd'hui, considérant que rien ne peut advenir de cela, ne sert, ne conduit qu'à la reproduction du même et qu'à l'aggravation de la situation. Donc nous, notre point de départ, c'est un point de départ de chercheur, c'est-à-dire que nous allons explorer autrement une situation comme celle-ci, partant du constat que les politiques publiques conduites à cet endroit-là ne produisent ne font que se répéter un désastre dont il va bien falloir sortir. Et ce désastre, c'est quoi? C'est expulser, détruire, nier cette existence-là. Donc les principes et les modalités de la pérennisation du bidonville sont inhérents aux politiques publiques conduites aujourd'hui. Et donc nous faisons l'hypothèse que construire est le plus court chemin pour en sortir. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est accompagner ce qui s'invente, accompagner ce qui s'affirme. C'est peut-être, hypothèse, hein, dépasser cette situation-là, sortir de l'état de bidonville, sortir de la boue, par l'affirmative, et d'accueillir ce qui s'invente et ce qui se construit, et d'être attentif à cela, et de prendre soin de tout. Et la jungle, là, pour le coup, est un laboratoire absolument extraordinaire. S'y passent des actes, des rencontres, des relations, des inventions, des rêves qui sont absolument extraordinaires. Je veux dire que c'est un lieu peut-être unique au monde aujourd'hui et que les pouvoirs publics sont en train d'effectivement complètement terrasser, ce qui est non seulement absurde pour les migrants, par définition, mais pour la ville entière, et c'est aussi notre hypothèse. C'est-à-dire que si nous changions de paradigme et si nous construisions l'hospitalité, peut-être que la ville entière, Calais, en sortirait magnifiquement grandie. Et c'est comment, effectivement, inventer des politiques publiques qui soient à la mesure de toute façon, de ce qui nous arrive, puisque ces vagues migratoires ne sont qu'à leur balbutiement, d'une certaine manière. À l'horizon 2030, un tiers de la population mondiale vivra en bidonville. Enfin bref, voilà. Donc voilà, il va falloir qu'on change absolument de paradigme et peut-être qu'on envisage que accueillir, c'est aussi se faire l'hospitalité à soi-même et c'est aussi peut-être tirer grand bénéfice pour la ville et pour les Calaisiens eux-mêmes de cela. Et donc c'est une vision qui n'est partagée par que très peu de monde.
Alors, plusieurs choses par rapport à l'activité que vous menez dans la jungle de Calais. D'abord, un travail remarquable d'ethnographie. Vous avez des membres de votre association qui consignent et repèrent et tracent des dessins de cette nouvelle cartographie d'une ville qui est en train de s'inventer. Et vous avez bien fait, manifestement, de faire ce travail remarquable parce que déjà, il y a une partie de cette invention qui a été détruite. Donc, j'imagine que vous étiez contre la décision des autorités publiques de détruire une partie de la jungle parce que, il faut le dire, les autorités publiques proposent aux réfugiés d'aller dans d'autres parties de bidonville pour être mieux accueillis, mieux chauffés, mieux abrités, etc. Que répondez-vous à ce genre de problème ?
Détruire la partie sud, c'est faire segmenter la partie nord, pour l'instant, qui est encore existante, et que ça serait une œuvre, une grande œuvre humanitaire, il n'y aurait pas besoin de débarquer au petit matin en mobilisant des forces de CRS pour convaincre les personnes qui veulent partir, dire que si effectivement ces personnes étaient en danger ou alors elles ne sont absolument pas éveillées à leurs conditions, mais je pense qu'on peut quand même un petit peu faire confiance à l'humanité, aux humains et aux hommes qu'on a là. Donc si on est obligé de déployer tant de forces de l'ordre pour les sauver, c'est bien qu'il y a un problème au départ.
Ensuite, forces de l'ordre qui sont toujours là en ce moment. Hein.
Oui, c'est depuis début octobre 150 000 euros par jour dépensés par nous-mêmes, par le contribuable, pour la simple présence de 18 unités mobiles à Calais. 150 000 euros par jour. 50 000 euros par jour pour leur simple hébergement. Donc, gabegie financière absolument invraisemblable. On marche sur la tête et, effectivement, on déploie des CRS, des pelleteuses, etc. Au motif que c'est une œuvre humanitaire et qui ne produit que le déplacement, encore une fois, et le déplacement aggravé d'une certaine manière, puisque ce qui s'était construit et élaboré en zone sud se réélabore autant qu'on le peut en zone nord, avant prochaine destruction, puisque c'est dans le cours des choses. On voit que ça ne cesse d'être ceci qui est reconduit.
Alors, il faut que vous expliquiez oui. Concrètement à quoi ressemblent ces nouveaux villages. Le terme ne convient pas, d'ailleurs, parce qu'ils sont dénués de sens de la solidarité, urbanistiquement et architecturalement. Donc, ce sont des petites maisons.
La maison, c'est un grand terme.
Oui, des petits édifices.
Alors non, pour Calais, ce sont effectivement 1500 places prévues à raison de 12 places par unité dans des containers.
Donc, alors les containers, c'est des petits abris.
C'est pas petit, enfin c'est 36 mètres carrés, c'est ce qu'on trouve dans les ports. D'ailleurs, il y a de multiples expérimentations architecturales qui sont conduites avec ces modules-là. C'est prévu pour transporter des marchandises. On y met des hommes aujourd'hui, de nos jours, espérant que ceci soit effectivement recevable et agréable pour ceci, donc ces 12 personnes.
Et on met des surveillants à l'entrée de ces villages de containers.
Voilà, donc non seulement on les grillage et ils sont effectivement ce sont des hétérotopies, des dystopies qui sont hors la ville et hors tout espace d'urbanité par définition, qui sont grillagés, sécurisés comme on dit, surveillés, etc.
Mais la surveillance, disent les autorités public, en fait, elle est là pour essayer d'empêcher les passeurs d'arriver vers les réfugiés, de faire leur commerce terrible.
Oui, sauf que alors les personnes qui sont à l'intérieur ont le droit de sortir.
J'ajoute qu'en ce moment, oui. En tout cas il y a 10 jours quand nous y étions, le prix du passage en Angleterre, c'était minimum 6 à 7 000 euros, oui. Jusqu'à 12 à 15 000 euros.
Bien sûr. Alors les pouvoirs publics pourraient être bien inspirés de considérer que c'est en faisant vivre l'invivable aux personnes que l'on fait le marché des passeurs. Ceci qui, effectivement, tire grand profit de ces politiques d'hostilité, puisque la France est manifestement invivable, il faut manifestement aller ailleurs. Et donc là, les passeurs sont bien heureux de voir des pelleteuses, sont bien heureux de voir ces politiques invraisemblables se développer, puisque du coup, leur source, qui est le désir d'aller ailleurs, est ainsi augmentée. Donc, premièrement, ces politiques-là sont au plus grand bénéfice des passeurs. D'accord ? Secondement, les personnes qui vivent dans les conteneurs ont moult moyens d'entrer en relation avec des passeurs et qu'on ne dise pas que c'est les grillages et
Parce qu'ils ont tous des portables, par définition.
Mais puis ils sortent la journée, puisque de toute façon, dans ces conteneurs, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas faire de cuisine, etc. Donc, on est obligé de sortir de là pour ne serait-ce que vivre. Donc, de toute façon, les relations avec le monde, avec les passeurs, etc., ne sont absolument pas.
Que proposez-vous ? Parce que bon, moi j'ai été très impressionnée par la force des associations et des personnes qui travaillent sur le terrain. Il y a eu cet appel de Calais signé par des intellectuels et des artistes il y a quelques mois. Vous éditez aussi un bulletin qui est destiné aussi aux réfugiés, aux gens des associations à Calais, dans toute la région. Que proposez-vous et qu'espérez-vous ?
Alors, on propose de considérer autrement la situation, et encore une fois, on suit l'hypothèse qu'une politique publique viable doit partir de ce qui s'affirme et accompagner ce qui s'affirme et ce qui s'invente. Je veux dire que d'un point de vue de la rationalité des politiques publiques, c'est-à-dire comment on tire profit, y compris quand on est maire de Calais, y compris quand on est président de région, y compris quand on est président de la République, comment on tire profit d'une telle situation qui peut s'avérer extraordinaire si on la considère autrement que de la manière dont on la considère aujourd'hui. Donc c'est changer effectivement de focale, changer effectivement de regard et voir premièrement donc que ces 5000 personnes qui vivent à Calais ne sont pas des pauvres errants, sont une humanité absolument invraisemblable, magnifique, ce sont des héros comme le dit Imako, des héros qui ont traversé des mers, des déserts, etc. et qu'on cesse de les considérer comme étant de pauvres, de l'humanité rebut dont il faudrait prendre en charge, alors qu'il y a une puissance en acte, une puissance d'invention, une puissance de rêve, une folie qui a lieu là, qui pourrait être extraordinaire pour nous tous si on était capable d'en tirer profit encore une fois et de, à la fois en l'accompagnant, d'en être traversé. Donc premier point, c'est considérer autrement les personnes. Deuxième point, c'est considérer autrement ce qui a lieu à Calais. Ce qui a lieu à Calais, c'est tous les soirs depuis début octobre, toutes les auberges, campings, hôtels sont pleins du monde qui vient là aider, construire, etc. Il y a une solidarité. À l'heure où l'Europe s'érige de barbelés, etc., il y a une Europe là, solidaire, proactive, qui est du pain béni. Je veux dire qu'alors, il faut réinventer l'Europe, il faut réinventer les conditions même de notre survie d'Européens et de ce que ça veut dire être Européen. Il y a là un creuset magnifique. Comment se fait-il que les acteurs publics ne sont pas capables de considérer ça et de valoriser ça? Je ne sais pas comment le dire, de prendre soin de cela. C'est Calais est la capitale de l'Europe aujourd'hui. L'auberge de jeunesse de Calais est le centre de l'Europe aujourd'hui. Donc allez voir, je dis ça aux acteurs publics, qu'ils aillent prendre le pouls de ça. Il n'y a pas un acteur public qui se rend à Calais, qui ose franchir le pas de la jungle et ose aller se confronter et risquer de se faire bousculer par ce réel-là, qui est un réel absolument extraordinaire. Et à partir de là, effectivement, tout reste inventé. Nous, on n'a aucune espèce de solution sous le coude. Sinon, d'ailleurs, on l'aurait annoncé à tout le monde. Je suis enseignant en école d'architecture à Paris. On est plein d'enseignants au Pérou. On est quand même, je ne sais pas, richissime de savoir et de savoir-faire. Comment se fait-il qu'on soit encore à ce point dans des politiques d'une pauvreté insondable, eu égard à l'intelligence qu'il y a là, tout autour de nous, tous ces étudiants qu'on rencontre qui ont une folie, qui ont une envie, etc. On en est vraiment, mais un état zéro, enfin, c'est lamentable. Donc comment aussi on prend soin de ce que l'on a entre les mains, de l'intelligence. Donc nous, c'est finalement d'essayer de se faire s'articuler, de composer, de faire se rencontrer tout cela, la puissance active de ces migrants, la puissance active de cette Europe qui a lieu là, aussi la grandeur de ces Calaisiens qui sont tout sauf un ramassis de xénophobes, dire, entendre ce qui se passe au quotidien et les relations qui ont lieu entre les Calaisiens et les migrants, et prendre soin aussi de l'intelligence que l'on a, et à ce moment-là, effectivement, parvenir à inventer et tracer des pistes de travail travail consistant à accompagner ce qu'ils inventent. Donc voilà, on lance un appel à idées, à partir de ce travail de recherche que l'on fait depuis 6 mois avec 8 écoles avec lesquelles on travaille, et on lance un appel à idées qu'on va diffuser à la Cité de l'Architecture du Patrimoine, à la Biennale d'Architecture de Venise, à Bordeaux, auprès de la profession, auprès des écoles, etc. On a tracé 9 plans de travail à partir de ce qu'on a vu, décrit, ces 9 extrapolations, c'est 9 spéculations à partir de ce que Zimaco a construit, une école.
Donc Zimaco qu'on entendra demain et qui a construit.
De tout ce qui s'est construit, comment on se dit, tiens, là, il y a peut-être les germes de quelque chose d'extraordinaire, comment on spécule, mais reprenons le terme, comment on envisage, on travaille sur l'augmentation de la réalité urbaine à partir de ce qui s'est risqué, de ce qui s'est inventé, de ce qui s'est affirmé, qui est peut-être en germe une urbanité dont on n'a pas encore la mesure, dont on n'a pas encore la définition. Mais donc c'est un pas dans le vide, mais forcément il va bien falloir le faire plutôt que de ne cesser de freiner, de nier ce qui effectivement ne cesse de s'inventer et qui pour l'heure est juste étouffé, et ceci est un gâchis extraordinaire.
Nous avons rencontré Jean-Yves, dit Bambino, un jeune Calaisien qui a décidé de vivre là-bas, nuit et jour, dans la jungle. Alors, on est où ici?
Dans la jungle à Calais, dans la tribu soudanaise, avec juste devant l'école d'Alpha.
Comment on arrive à se faire accepter par des habitants de la jungle, et quelle a été votre démarche? Oh, ça vous fait rire?
Ouais, parce que c'est pas. Tout simplement, comme on en parle tout le temps ici, en respectant, en montrant qu'on vient ici pour faire quelque chose de bien, on se fait accepter. Pour moi personnellement, je pense au fil du temps, quand tu vois vraiment que vous lâchez pas, que vous venez, que vous savez ce que vous voulez avec eux, que vous travaillez pour eux, pour vous, pour les autres. Ici, de toute façon, quand on est ici, on n'a pas vraiment le choix de penser à soi. On est rarement seul en fait ici, quoi. Donc c'est une famille géante en fait. Donc c'est.
Vous habitez où, vous?
Moi j'étais ici, c'est la petite chambre d'Amid, mais où il y a 2 lits, donc on est à 2 dans celle-là. Tout se ressemble parce qu'à chaque fois c'est des petits lits, c'est disposé pour que on puisse parler par exemple le soir, échanger, partager des moments, parler de ce qui s'est passé, de la journée dans la jungle, ce qu'on a appris, qui on a rencontré, donc un peu pouvoir toujours garder. C'est important ici, toujours garder le dialogue en fait, surtout à l'intérieur de la jungle.
Et avant d'habiter dans la jungle, vous habitiez où?
J'habite dans la jungle le week-end. Sinon, moi je suis à l'internat, donc c'est un peu la même chose, ça vient en communauté.
Vous avez fait le mur pour venir ici?
Non, du tout. Non. Il faut. Moi je suis jeune, je suis à l'école aussi, mais ils le savent de toute façon.
Vous avez quel âge?
19 ans. Et ils savent de toute façon que.
Et vous êtes de la région?
Oui, non. Je suis né en Pas-de-Calais, des Ardennes françaises. Donc c'est quelque chose justement qui fait que on retrouve des choses dans la jungle qu'on trouvera pas ailleurs.
Par exemple,
la vie en communauté, tout simplement. Vraiment de tous les pays ensemble, c'est rare de l'avoir en dehors avec une telle facilité à circuler, à rencontrer tout le monde. On fait ça avec facilité. Ici, y a pas de barrière pour ça justement. C'est ça pour qui nous pousse à revenir, à passer du temps ici.
Alors vous parlez de respect, mais il y a de la violence aussi ici.
Les médias parlent déjà assez de violence par rapport à la jungle pour que nous-mêmes on en parle. Tout le monde est dans la même situation, tout le monde essaie de se débrouiller un peu comme il peut, tout le monde essaye d'apporter à l'autre, tout ça. On n'a pas le temps ici de penser à la violence. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, c'est pas. Pas mentalement, c'est. C'est quand même assez dur, il faut quand même puiser pour, comme Amidi le disait tout à l'heure, toujours garder le sourire, tout ça. On le fait, mais c'est pour ça aussi que la vie en communauté, ça nous aide, parce qu'on peut justement évacuer quand on est entre nous. Quand les gens viennent, il faut qu'on soit souriant, tout ça, on l'est naturellement. Mais il y a des fois, justement, l'avantage d'être en communauté, c'est que quand il y en a un qui a un coup de barre, l'autre est là. Et on parle justement, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est ensemble, justement, par exemple, dans les pièces qui sont disposées, on peut en parler, on peut évacuer. Et le lendemain, on reprend un nouveau départ et on repart avec le sourire de bonne humeur.
Est-ce que la jungle va modifier votre futur, Bambino?
Elle l'a déjà modifié. J'ai trouvé des repères ici. J'ai trouvé le travail que je voulais faire avec eux. Ils l'ont compris. Ils sont.
Quel type de travail vous faites ?
Des travails pour montrer vraiment aux gens que on ne montre pas toute la réalité à la télé. Que c'est l'inconvénient de la jungle, on va dire. Il faut vraiment y venir pour comprendre en fait comment ça se passe. Et les médias ne nous aident pas et nous aideront certainement jamais à inciter les gens à venir. On doit le faire par nous-mêmes. Donc justement par des projets pour que les gens à l'extérieur ils se reconnaissent, pour que les gens ils voient que par rapport à la culture, c'est une richesse culturelle. S'il y a des écoles comme ici, tout ça, c'est pas pour rien justement. On construit pas des écoles si on sait qu'il y a personne qui va y aller. Il y a beaucoup de monde qui va apprendre le français. Il y a beaucoup de monde qui sont très motivés. Justement, Ahmed était avec moi et il apprenait avec moi. On faisait des choses toutes simples justement parce qu'avant l'école, on fait passer justement la connaissance de l'autre. On a appris à se connaître avant. Les apprendre tout simplement à extérioriser pour qu'ils se fassent comprendre justement, parce que pour eux c'est important. Des fois ils n'arrivent pas à se faire comprendre et on voit que ça les gêne un peu. Donc si on peut les aider à ça justement, autant le faire, et il faut le faire justement. Et plus il y a de monde qui les aidera à faire ça, c'est à la portée de tout le monde. Chaque personne ici peut venir, on peut faire des grandes choses, on peut faire un rien, on peut rester 2 heures ici, mais tout le monde a quelque chose à apporter ici justement. C'est le gros avantage d'ici justement, c'est que tout le monde peut être utile.
À Calais, dans la jungle, les associations de bénévoles sont très importantes, très dynamiques et très efficaces. Voici le témoignage de Maya Conforti, bénévole de l'association L'Auberge des Migrants.
On est dans le quartier des familles avec une cinquantaine de caravanes. Ce sont que des familles qui habitent ici. Et toutes les caravanes ont été déménagées de la zone sud sur la zone nord dès que la police a commencé à arriver le lendemain des évacuations, parce que le premier jour c'était chaud quoi. Il y avait du gaz lacrymogène, etc. Les familles ont pris peur, elles ont dit déménagez-nous s'il vous plaît. Donc on a déménagé toutes les caravanes en une nuit. Voilà. Donc voilà, c'est le quartier des familles, au moins les enfants ils peuvent jouer. Ils sont un peu isolés du reste de la jungle, quoi. C'est la jungle, mais pour les enfants.
Quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles vivent les enfants là ?
Ça fait un peu camp de Rome. Hein. En fait, ça ressemble à ça. Hein. À la sauce afghane, kurde. Surtout afghans et kurdes ici. Hein. Il y a quelques familles syriennes, mais qui habitent de l'autre côté. Les Syriens habitent entre eux.
Chaque communauté, finalement, habite ensemble et a conservé ses propres rites, ses propres codes.
Alors, c'était vraiment beaucoup plus comme ça quand il y avait toute la jungle. Il y avait vraiment un quartier soudanais, érythréen, éthiopien, afghan. Maintenant que 80% de la population a été obligée de déménager sur la moitié du terrain, c'est vraiment un peu mélangé. Les quartiers ne se sont pas vraiment reformés parce que les gens ont été mettre leurs cabanes là où ils pouvaient. Ils se sont installés là où ils pouvaient. Et donc les communautés ont été un peu dissociées. Il n'y a plus cet ordre qu'il y avait avant. Donc il y a des différences de culture très marquées. Par exemple, ce sont quasiment 90% des Afghans et peut-être 10% de Pakistanais qui ont construit la rue commerciale, donc les épiceries, les boulangeries, les hammams, les restaurants. Tout ça, c'est afghan à 90%. Il y a eu un restaurant kurde, c'est à peu près tout. Pas du tout de Soudanais, par exemple. Il n'y a pas un restaurant soudanais, il n'y en a jamais eu. Par contre, il y a quelque chose de complètement différent chez les Soudanais, c'est qu'ils ont beaucoup plus le sens de communauté. Donc autant un Afghan ne pouvait pas concevoir de se construire un abri sans vendre quelque chose dans son abri. Donc un truc pour vendre et un endroit pour dormir à côté. Autant les Soudanais ont beaucoup, très fort le sens de la communauté et se sont construits des moyens de vivre ensemble à 20, 25 avec des petits cabanons construits en U pour avoir une cour intérieure, pour pouvoir faire la cuisine, être chez soi, un peu comme au village, dans un village africain. Et ça, c'était, ils ont construit des trucs vraiment chouettes qui ont malheureusement, la plupart, été détruits. Donc c'est là qu'on voit la différence. On voit aussi des grandes différences entre... Donc les Afghans aiment bien faire du commerce, mais par contre, ils détestent faire la queue. Ah, ils veulent pas faire la queue. Ils détestent ça. Ça atteint leur dignité, leur sens de l'honneur, de la fierté. Ils détestent faire la queue. Donc, ils ont construit des hammams parce qu'ils voulaient pas faire la queue pendant une heure pour prendre une douche de 6 minutes. Surtout qu'une douche de 6 minutes, pour ces cultures-là, c'est complètement ridicule quand ils mettent une demi-heure à se laver. Donc, ça leur convenait pas du tout. Donc, ils ont construit des hammams. Alors ça, c'est ce que les réfugiés ont fait par eux-mêmes, on va dire. Mais il y a aussi quelque chose de vraiment bien qui s'était passé et qui ne s'est pas encore reconstruit parce que, bon, on a été amputé de la moitié de la jungle. Là, on est un peu...
Vous dites amputé, c'est un mot vachement fort. Hein.
Bah, c'est ça, la moitié.
Vous n'étiez pas d'accord, vous qui avez vu naître la jungle, vous n'étiez pas d'accord avec les décisions du ministère de l'Intérieur de porter secours aux réfugiés pour qu'ils soient mieux logés.
Mais ils n'ont pas porté secours aux réfugiés. Ils se baladaient tous les jours en disant « Vous devez partir, vous pouvez aller là ou là. » Qui étaient deux endroits qui ne leur plaisaient pas. Et parce que ça, c'est pas pratique pour aller en Angleterre, etc. Les CAO, c'est pas, ça leur convenait pas. C'est bien pour les gens qui
les
demandent
CAO,
l'asile. Centres d'accueil et d'orientation qui sont répartis dans toute la France et qui sont tout à fait corrects pour quelqu'un qui veut demander l'asile, mais pour quelqu'un qui veut aller en Angleterre, c'est pas du tout ce qu'il faut. L'autre solution, c'était ces camps de containers. Je sais pas si vous les avez vus.
Si.
Autant c'est propre et c'est chaud. Autant, c'est pas un lieu de vie, c'est pas... Tous ces gens, c'est des gens qui ont une culture sociale extrêmement forte et habiter dans un truc comme ça, c'est pas du tout adapté à leur manière de vivre. Il n'y a pas de vivre ensemble. Et pour eux, le vivre ensemble, il est crucial.
Vous disiez qu'une partie de cette jungle avait été donc amputée. Vous disiez aussi que... La plupart des personnes qui se trouvent ici veulent partir pour l'Angleterre. Mais manifestement, depuis quelques jours, il y a un autre mouvement qui s'amorce, que le gouvernement français souhaitait d'ailleurs. C'est qu'il y a des personnes vivantes ici qui seraient en train de, peut-être de demander l'asile pour la France, au lieu de vouloir, au mépris de leur propre vie quelquefois, partir à tout prix en Angleterre. Est-ce vrai ?
Depuis le mois d'octobre, l'État a essayé d'encourager les gens à partir dans ces CAO, ces centres d'accueil et d'orientation, pour demander l'asile. Il y a pas mal de gens qui sont partis depuis le mois d'octobre. Je crois qu'il y a à peu près 3000 personnes en tout qui sont parties. Ici, le chiffre, il n'est pas très haut en ce moment. Depuis l'évacuation de la jungle, en fait, il y a très peu de gens qui sont partis. L'État, je pense, était très déçu qu'il y ait si peu de gens qui partent, parce qu'en fait... 80% de la population qui était sur la zone sud a déménagé sur la zone nord.
Donc en fait, transfert.
Donc il y a eu un transfert.
On n'a rien réglé.
On a réglé, on va dire, 20% du problème de présence des réfugiés, mais on en a qui arrivent tous les jours aussi.
Voyez-vous l'avenir de la jungle ?
Bah écoutez, on verra. On n'a pas beaucoup de choix puisque l'État n'en fait qu'à sa tête. L'État n'écoute pas beaucoup les associations, malheureusement. Et donc, même si l'État a dit aujourd'hui, la préfète a annoncé la semaine dernière que la zone nord allait rester pendant 2 mois, moi, j'ai du mal à faire confiance. Il suffit d'une petite chose pour dire on a changé d'avis, donc on verra. Ce qu'il y a, c'est que l'État n'a pas de solution pour ces familles, mis à part la demande d'asile. Or, les gens s'attachent à vouloir aller en Angleterre. Il y en a qui ont de la famille en Angleterre. Il y en a qui parlent anglais. Ça reste un rêve qui perdure, l'Angleterre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, la frontière, les frontières sont très fermées maintenant. Il y a des kilomètres de barrières. Et donc, passer sans argent est devenu très difficile. Ça passe toujours, mais ça coûte de plus en plus cher.
Mais alors, comment font-ils ?
Extrêmement cher. Extrêmement cher.
Comment font-ils les
réfugiés ?
Écoutez,
moi j'ai des amis iraniens, leurs mères ont vendu tous leurs bijoux. Donc c'est pas des gens qui étaient pauvres en Iran, ou en Syrie, etc., etc. La plupart des gens qui viennent ici sont des gens qui avaient de l'argent au départ, ou alors des terres, ou alors une maison, quelque chose à vendre. Un pauvre, il ne peut pas arriver ici. Il n'a pas l'argent. Donc ce sont plutôt des gens de la classe moyenne qui sont ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont du mal à vivre dans des conditions comme ça, parce que dans leur pays, ils avaient une maison. Donc, ils ont vendu ce qu'ils avaient, quelquefois tout. Ils ne peuvent pas revenir dans leur pays, parce que dans leur pays, ils n'ont rien. Ils n'ont plus rien. Et aussi, ils ont emprunté. Emprunté aux amis, emprunté aux voisins, emprunté à la famille. Et donc, ils ont aussi des dettes à rembourser. C'est pour ça qu'ils sont pressés de travailler. Et c'est ça qui est très difficile avec la demande d'asile, qu'elle soit en Angleterre ou en France d'ailleurs. C'est que quand vous demandez l'asile, en France, vous ne pouvez pas travailler. Et l'asile, bon, maintenant, l'État fait des promesses que les réfugiés vont avoir la réponse beaucoup plus vite sur leur demande d'asile. Reste encore à voir, parce que jusqu'à maintenant, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous voyez là, un Pakistanais, ça fait 1 an et demi qu'il attend. Il a déjà envoyé son dossier à l'OFPRA, ça fait presque 1 an et demi, et il n'a toujours pas de réponse à sa demande d'asile. Donc pendant 1 an et demi, vous ne pouvez pas travailler. Et les gens ont des dettes à rembourser. C'est très difficile. Très difficile. On devrait, l'État devrait inventer un système où les gens puissent travailler ou se construire des petits commerces, ou etc., etc. C'est ça qui, c'est le bon côté de cette jungle ici. Alors, je ne veux pas faire l'article positif de cette jungle parce qu'elle a des côtés complètement incorrects. Mais en même temps, ils créent une espèce d'économie, un espèce d'équilibre, aussi une, pour revenir à ce que je voulais dire avant, cette rencontre entre tous ces bénévoles qui sont venus, tous ces Européens qui sont venus, Français, Belges, Anglais, puis d'autres nationalités qui sont venus rencontrer les réfugiés, qui sont venus travailler ensemble, construire un théâtre, construire une maison des femmes, construire une bibliothèque, ensemble. Et ça, c'était quelque chose de bien, parce que le problème avec la façon dont on s'occupe des réfugiés, dont l'État s'occupe des réfugiés, par exemple dans ce camp de containers ou même le centre Jules Ferry, je ne peux même pas rentrer. Tout le monde me connaît dans la jungle, mais je n'ai pas le droit d'entrer. Donc, s'il n'existe pas cette jungle, je ne peux plus faire connaissance avec les réfugiés.
Parce que c'est des
réfugiés.
Camps où il faut mettre...
C'est l'État. L'État gère et donc il n'y a
et
que les...
Et les va-et-vient voilà. Avec voilà. Les empreintes digitales.
Il n'y a que les salariés qui peuvent être là. Les bénévoles ne peuvent pas être là. Bon, il y a quelques bénévoles qui peuvent être là, mais il faut être inscrit, etc., etc. Donc, tout d'un coup, l'État stoppe complètement la rencontre entre le citoyen européen et le réfugié. Or, c'est ce dont la société a le plus besoin, c'est de cet espace de rencontre pour les Européens, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui peut être très intéressant, qui peut avoir beaucoup à donner, qui peut nous apprendre beaucoup de choses, et aussi pour les réfugiés, de rencontrer les Européens, de tisser des liens, de faire des projets ensemble, de travailler ensemble, de partager les ressources qu'on a ou les capacités qu'on a, etc. Et c'est ça le côté intéressant de cette jungle. C'est ça, ça c'était quelque chose de bien. Et j'aimerais bien que l'État puisse comprendre que il faut plus de cet espace de transition, un espace de transition entre l'arrivée du réfugié en Europe et sa place dans la société européenne, et avoir cet endroit où on peut faire ce mélange. Ça, c'est très riche.
Fabienne Bussiot, vous êtes préfète du Nord-Pas-de-Calais. Vous venez de rentrer en fonction. Merci d'avoir accepté cet entretien. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui? Comment la considérez-vous?
Écoutez, la situation à Calais est, et c'est pas une nouveauté, toujours une situation sensible. C'est toujours une situation que l'on suit depuis déjà plusieurs mois, hein, je vais presque dire des années, même si ça fait que vraiment, je dirais, un peu plus d'un an, 18 mois, que la situation est vraiment devenue beaucoup plus sensible avec ce qui s'est passé dans le monde, hein, et les conséquences que ça a eu sur Calais, mais pas que sur Calais. Donc, situation sensible, mais situation qui s'est quand même si il faut toujours être humble dans ce genre de dossier, mais quand même situation qui s'est améliorée très nettement, et on continue de manière à toujours améliorer la situation de ces personnes qui viennent sur notre sol et qui en fait pour l'immense majorité d'entre eux ne veulent qu'un meilleur avenir et trouver une issue positive à leur voyage.
Est-ce que vous êtes satisfaite de la destruction d'une partie de la jungle et à quoi cela a-t-il servi ?
Alors, satisfaite, je le serai quand chaque personne qui vit sur le camp de la Lande aura accepté une solution digne d'hébergement. Voilà, c'est ça. Je crois que aucun de nous ne pourra être satisfait tant qu'on ne sera pas arrivé à cette solution. Là, voilà, c'est ça l'objectif final, c'est l'objectif du ministre, c'est ce qu'il souhaite et c'est ce que l'on souhaite tous. Après, vous parlez du démantèlement, puisque vous étiez sur place, vous avez bien vu ce camp de la Lande, c'est le démantèlement de la zone sud. Oui, je pense qu'il fallait le faire et c'était important de le faire. C'était important de le faire parce que, d'abord, les personnes qui y étaient et le fait d'avancer avec les maraudes qu'on avait mis en place pour pouvoir leur passer le message, leur dire qu'elles pouvaient pas rester, qu'on avait une solution sur place, qu'on avait ou une solution dans les centres d'accueil et d'orientation ailleurs en France.
Qu'entendez-vous par maraude sociale ?
Les maraudes sociales, c'est quelque chose qui existe déjà depuis l'année dernière, au mois d'octobre, on les a mis à place. Vous savez, c'est quand le Bernard Cazeneuve a annoncé la mise en place de ce qu'on appelait le plan Cazeneuve. Il y avait deux volets à ce plan, deux volets qui permettaient d'équilibrer ce plan. Il y avait le volet sécuritaire, on rend étanche la frontière, avec l'arrivée de forces de l'ordre pour tenir les deux sites, hein, et essentiellement attaqués, hein, par les migrants pour essayer de passer, c'est-à-dire Eurotunnel et le port de Calais.
D'où cette présence constante des forces de police là-bas dans la jungle de Calais.
Absolument. Et on avait bien conscience à l'époque, je vous rappelle qu'à l'époque, hein, octobre 2015, il y avait 6000 migrants à Calais et qu'il n'y avait pas du tout de centre d'accueil provisoire comme on a maintenant. Alors, il y avait déjà le centre Jules Ferry, on leur fournissait déjà le repas, il y avait déjà tout le soutien médical, il y avait pas aussi organisé que ce qu'on a maintenant, mais il n'y avait pas, en tout cas, au niveau de l'habitat, il n'y avait rien et on avait 6000 personnes. Donc voilà, il annonce ça, mais on avait bien conscience que la frontière devenant complètement étanche, il allait falloir trouver une réponse à ces personnes. On ne pouvait pas en accueillir plus, ça devenait intolérable. Il faut aussi penser à la population calaisienne, donc il fallait faire quelque chose d'équilibré. C'est jamais facile, hein, je le dis très modestement. Mais donc c'est à ce moment-là que a été décidée l'ouverture de ce qu'on a appelé les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, un peu partout en France. Et pour convaincre les migrants de partir vers ces centres d'accueil ou d'orientation, on a mis en place des maraudes sociales. Alors, qui fait ces maraudes sociales ? Ben, les services de l'État. Il y a l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a l'OFPRA aussi, qui vient et qui explique aussi la demande d'asile. Et puis, il y a la direction départementale de la cohésion sociale et des personnels directement de la préfecture se sont également associés à ces maraudes sociales pour les amplifier, pour vraiment porter ce message. Et au moment où je vous parle, enfin, vous le savez certainement, il y en a quand même plus de 3000 qui sont partis de Calais pour rejoindre ces CAO et on en a actuellement, je crois le chiffre exact c'est 122 qui sont répartis un peu partout en France. Donc voilà. Et donc au moment, je reviens sur le démantèlement de la zone sud qui était votre question première, le démantèlement de la zone sud, quand je l'ai annoncé, ce que j'ai expliqué c'est qu'on avait vraiment une opportunité. On ouvrait la seconde partie du centre d'accueil provisoire sur place avec 750 nouvelles places sur place, qui ouvrait pour ceux qui ne voulaient pas encore s'engager dans une demande d'asile, qui ne voulaient pas partir en centre d'accueil ou d'orientation, qui étaient toujours braqués sur l'idée de passer au Royaume-Uni. Mais on avait aussi ces CAO, et c'est là qu'on a intensifié vraiment nos maraudes sociales pour leur proposer à chacun une solution digne. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que l'on a fait. Et qu'est-ce que l'on constate ? c'est qu'on a plus de 300 et quelques migrants qui sont allés dans les centres d'accueil et d'orientation. On en a 200 et quelques qu'on estime venant de la zone sud, même si ça, je le dis aussi de façon très, très humble. On n'est pas sûr complètement de l'exhaustivité du chiffre, hein. C'est un peu délicat, mais on estime que 200 sont partis en centre d'accueil et d'orientation. Et on dirait un petit 30% s'est décalé vers la zone qu'on appelle la zone nord.
Alors, deux questions, Fabienne Bucciau. Oui. D'une part, on l'a bien entendu hier dans notre série par le témoignage de Hamid, une partie de votre politique qui consiste à expliquer à certains migrants que peut-être ils pourraient être accueillis en France et peut-être ne pas partir coûte que coûte au mépris de leur propre vie avec des sommes faramineuses qui sont données aux passeurs en Angleterre, commence à prendre un peu. Mais cependant, beaucoup de migrants disent que les centres d'accueil ne correspondent pas véritablement à leur désir de vivre temporairement dans ce territoire. Alors, quel avenir voyez-vous pour cette partie de ce territoire que vous administrez? Est-ce que vous pensez qu'ils s'inventent des choses dans ce qu'on appelle la jungle, ce que certains appellent la jungle? Est-ce que pour vous, il faut absolument démanteler la totalité de cet espace où certains disent pourtant que c'est peut-être un devenir de notre urbanité et de notre humanité?
Alors, quelque chose où je suis très claire par rapport à ce que vous venez de dire, maintenir un camp comme était la zone sud, qui n'existe plus, hein, je le précise. Je dis, moi, ça, ce n'est pas possible, ça ne doit pas demeurer. C'est indigne pour notre pays, mais plus encore, c'est indigne pour ces personnes. Ce n'est pas tolérable de laisser vivre des personnes dans cette situation-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a bien sûr, ils ne sont pas dans des situations humaines correctes, mais pire que tout, ils sont entre les mains de passeurs qui les exploitent. Donc dire qu'il faut mieux les laisser là parce qu'ils se créent un mode de vie, qu'il faut les maintenir là, essayer d'arranger les choses pour les maintenir dans ces conditions, alors là, très clairement, la représentante de l'État, mais aussi la femme, vous dit « ça, c'est pas possible et c'est pas tolérable de laisser dire ça ». Voilà, je vous le dis avec toute ma passion et mon engagement dans ce dossier. Ça, je lutterai contre ça parce que c'est tout simplement pas possible. Et je suis non pas satisfaite, le mot ne convient pas, puisqu'il y en a encore qui sont dans une situation qui n'est pas correcte, mais de 6000 qui étaient dans une situation qui n'était pas convenable à 1650, il y a un grand pas qui a été franchi. Ce pas n'est pas terminé, on y travaille encore. Et sans arrêt, et le ministre de l'Intérieur, et vous le savez, très impliqué dans ce dossier. Et ces 1650 personnes, d'ailleurs, nous avons, si on arrivait à les convaincre, nous avons un toit pour ces personnes. Mais il faut pour ça, et c'est pas facile, les convaincre d'accepter un centre d'accueil et d'orientation. Et voilà, c'est ça, toute la difficulté est là, mais sachant aussi qu'on a le centre d'accueil provisoire qui joue parfaitement son rôle, qui tourne vraiment très très bien. On a toujours entre 1200 et 1400 personnes qui sont dans ce centre d'accueil provisoire, et on se rend compte que quand ces personnes, elles se sont posées quelque temps dans le centre d'accueil provisoire, que le centre d'accueil provisoire joue parfaitement son rôle, et que du centre d'accueil provisoire, eh bien, il y en a qui partent en centre d'accueil et d'orientation. Parce qu'une fois qu'on les a sortis des mains des passeurs, eh bien, à ce moment-là, au bout de quelques temps, on se rend compte que du centre d'accueil provisoire, eh bien, ils partent en CAO et qu'ils demandent l'asile en France. Moi, j'ai eu le témoignage, et c'était assez touchant, d'une famille afghane où le père que j'ai rencontré avec sa femme et 6 enfants dans le centre d'accueil provisoire m'a dit « Moi, je ne veux pas aller dans les centres d'accueil et d'orientation parce que je ne veux pas l'asile en France. Moi, je veux aller au Royaume-Uni. » Eh bien, 10 jours après, j'ai été à un départ de bus pour le centre d'accueil et d'orientation. Ben, ce monsieur, il était là avec sa femme et ses enfants. Il avait dit ben, « Finalement, je reste en France. Je fais le choix de rester en France. » Voilà, donc c'est pas parfait, mais ça marche et on a obtenu des résultats. Alors tout ça est fragile, hein, à Calais, il faut toujours rester modeste. Hein, je ne sais pas de quoi demain encore sera fait en fonction de ce qui se passe dans le monde. Mais en tout cas, je sais pourquoi je le fais et je sais où je vais. Voilà.
Merci beaucoup, Madame la Préfète.
Merci à vous.
Merci à Sébastien Thierry, merci à Jean-Yves Di Bombino, merci à Maya Conforti et merci à Fabienne Bucciau, Je rappelle que l'exposition « Habiter le campement » organisée par l'association Pérou vient juste de commencer cette semaine à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris et que le Pérou y lance l'appel à idées intitulé « Réinventer Calais ». Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Yves Lehors, Véronique Villa. Vous écoutez France Culture. Demain, fin de cette série d'émissions consacrée à la jungle de Calais, avec le témoignage et l'analyse de Zimaco. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.